Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Il est béni au milieu de nous. Il a fait son œuvre de grâce et il continue à nous instruire de sa grâce. Alors, nous progressons dans le message de la consolation. Ça fait le troisième message que j'apporte au sujet de la consolation. Et il y aurait encore à dire et à prendre dans les Écritures, mais je pense que j'arrive un peu quand même vers le bout de ce message, parce que nous avons vu la grande espérance, la grande consolation, en fait, que le Seigneur nous accorde avec le message de l'Évangile, qui est celui du pardon, de la délivrance et de la victoire finale. Et puis, nous avons cela dans nos cœurs. Et c'est un fait que ça, à un moment donné dans notre vie, ça a été le grand soulagement du pardon des péchés et puis de l'espérance à venir. Mais il y a le quotidien, il y a la lutte au quotidien et cette consolation fondamentale, elle doit s'exercer, se manifester dans des situations diverses. Alors, nous devons progresser dans l'esprit de consolation. Je bénis le Seigneur parce que il peut donner des témoignages réguliers de ce qu'il a fait, et les uns et les autres peuvent témoigner régulièrement de ce qu'il a fait dans leur vie. C'est une source d'encouragement pour les autres. Et nous sommes bien appelés à nous consoler mutuellement. C'est pas seulement un message que nous avons tous reçu pour nous et puis que nous vivons individuellement. Nous sommes unis pour partager les consolations du Seigneur. Les traductions classiques de la Bible parlent de consolation, enfin passent par rapport aux tribulations en particulier. Je vous lirai dans l'épître aux Corinthiens. Les nouvelles traductions peuvent parler d'encouragement, de réconfort, là où nous avons le mot consolation. Et puis, tribulation peut être remplacée par détresse. Voilà, il y a des nuances dans les termes, mais on comprend bien qu'il s'agit de faire face à des situations contrariées, des stress, des tensions, et qu'il faut pouvoir... Donc dépassé par la venue du Seigneur dans notre cœur et par l'expérience de sa présence et de sa bonté pour nous. Alors, en fait, l'enseignement des apôtres a pour but de donner aux disciples des éléments de consolation face à des situations réelles. Et en particulier, il y a une situation que les premiers chrétiens ont commencé à connaître et à laquelle peut-être ils ne s'attendaient pas, c'est que certains d'entre eux ont commencé à être repris par le Seigneur, à décéder, à mourir. Et ça a immédiatement posé un problème par rapport aux promesses de vie éternelle, en fait, qui sont contenues dans l'Évangile. Et l'apôtre Paul, poursuit par une instruction particulière le but de consoler les chrétiens au sujet de leurs frères et sœurs ou leurs proches qui sont décédés. Dans l'épître aux Thessaloniciens, il introduit donc un des passages, une de ses réflexions, au chapitre 4, verset 13. De cette manière, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Alors lui, il emploie le terme qui dorment, en fait, qui sont endormis dans le Seigneur. Mais moi, je préfère beaucoup cette traduction-là. Et puis, je ne sais pas, les traducteurs nouveaux ont préféré mettre décédés. Mais c'est le terme, l'idée, la pensée de l'apôtre, c'est qu'ils sont endormis. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et donc, il donne une révélation du Seigneur ici, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, l'apôtre veut que chacun soit consolé de la perte d'un proche avec cette espérance et cette affirmation qu'il est le seul à pouvoir en fait donner, parce qu'il s'agit là d'une révélation, c'est que ceux qui sont morts nous précéderont, alors de peu, mais ils nous précéderont devant le Seigneur. Ils ressusciteront et le Seigneur les ramènera à sa parole, à la voix d'un archange, au moment où il va descendre du ciel. Bah d'ailleurs, voilà, c'est une des affirmations et d'une grande révélation de l'Évangile déjà, mais du Nouveau Testament, c'est que le Seigneur Jésus, un jour, va descendre du ciel. De la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, vous le verrez aussi revenir sur les nuées. Et donc, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Avant qu'il y ait la transformation de ceux qui sont restés, il y aura la résurrection de ceux qui sont morts. Et donc voilà, ils sont tout proches et si proches du Seigneur qu'ils ressusciteront avant que nous ne soyons nous-mêmes transformés et enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Donc, instruction de l'apôtre afin de consoler les fidèles au sujet de ce qu'ils ne comprenaient pas encore. Éclairer notre âme, lui donner des lumières nouvelles, contribue à réjouir notre cœur. Et c'est une source d'encouragement et même une réprimande, en fait, des Écritures qui vient éclairer notre âme, si elle est acceptée, est une source d'encouragement et de consolation. Seulement lorsque nous sommes réfractaires à la réprimande que nous apporte le Seigneur, qu'il y a contrariété et tristesse. Donc le but des Écritures est encouragement, justement les commentateurs disent que c'est aussi un terme proche de exhortation, en fait. Il y a de l'exhortation et une volonté des apôtres d'exhorter les chrétiens pour qu'ils se saisissent des paroles et des promesses du Seigneur et qu'ainsi ils reçoivent la consolation par l'Esprit. Mais deuxièmement, les Écritures, les lumières des Écritures sont surtout efficaces lorsque nous sommes proches les uns des autres, fortifiés mutuellement par un esprit de fraternité et de support. Nous allons lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 1 à 7, comment l'apôtre envisage la consolation du Seigneur. Versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas à chercher ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La consolation que donnent les Écritures, le Dieu de toute consolation, mais Dieu et les Écritures qui veulent nous trouver en accord les uns avec les autres, désirant partager les ressources de la grâce pour une louange commune. Il s'agit vraiment ici d'être dans une disposition de nous accueillir mutuellement, quelles que soient nos différences de fond sur la compréhension des Écritures, hein, puisqu'il y a les forts, il y a les faibles, il y a ceux, allez, disons, qui ont tout compris, et ceux qui sont encore très loin d'avoir tout compris, mais ceux qui ont tout compris, du moins, Paul dit, si quelqu'un croit avoir tout compris, enfin, il ne le dit pas de cette façon-là, mais c'est ça, hein, qu'il sache qu'il a encore beaucoup à apprendre. Mais, en tout cas, il y a quand même certains qui ont reçu de la part du Seigneur une compréhension de la foi et de l'œuvre de Christ qui leur permet vraiment d'être forts dans la foi. Et d'autres sont encore dans le doute, les interrogations. Eh bien, l'apôtre nous demande de nous accueillir mutuellement, et en particulier ceux qui sont forts, bien éclairés, eh bien, d'accueillir ceux qui sont encore en souffrance, en quelque sorte, par rapport à la compréhension de ce qu'est la vraie foi. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, alors nous pouvons louer ensemble le Seigneur et être une occasion d'encouragement et de consolation pour les autres. Et là, nous avons quand même besoin de nous remettre en cause régulièrement pour que cet esprit de consolation de Jésus-Christ vraiment passe au milieu de nous. Et l'apôtre, quand même, devra reprendre les Philippiens et combien toutes les églises peuvent se sentir concernées par ce passage où il va, chapitre 2 des Philippiens, aller jusqu'à tout simplement replacer devant la conscience des fidèles le témoignage de Jésus-Christ lui-même, de sorte que ce témoignage puisse nous permettre ensemble de vivre dans le partage et un soutien véritable. Philippiens chapitre 2 verset 1 à 11. On sent que derrière il y a quand même une faiblesse, des lacunes au sein de cette communauté, et combien nous pouvons les voir. Vous savez, on rencontre des chrétiens de différentes origines, de différentes assemblées, mais quand même régulièrement, l'écho que nous avons, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas qui sont pas au point dans le partage et dans le soutien mutuel au sein des églises. Alors, cette parole de l'apôtre est très importante. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce qui a conduit Jésus-Christ à cette gloire parfaite, éternelle, c'est son humiliation, c'est sa compassion, c'est le fait qu'il s'est mis totalement au niveau de l'homme pécheur et qu'il est venu partager avec lui toute sa souffrance et voilà qu'il a accueilli véritablement ses frères et sœurs avec miséricorde, compassion et esprit de sainteté, de grâce. Voilà, et l'apôtre est obligé de quand même dire aux chrétiens, mais si cela est vrai, si vous êtes dans la communion de ce Christ, alors manifestez-le en ayant ces sentiments d'amour et de considérer les autres. Si nous sommes vraiment portés à nous intéresser à nos frères et sœurs et à les soutenir, à les encourager, il y aura beaucoup de consolation. Sinon, les frères et sœurs pourront se trouver isolés et rester dans leur marasme, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, parce qu'il n'y aura pas eu ces sentiments d'amour qui leur seront manifestés. Donc, la consolation passe vraiment par le support mutuel. Et le fait de ne pas être en une position de domination, de supériorité par rapport aux autres, mais vraiment chacun ensemble, tous ensemble, sous le regard du Seigneur. Il y a finalement de grands exemples, de grands témoignages qui sont là pour, dans le but de nous consoler. Et c'est dans la seconde aux Corinthiens que nous trouvons cela, dans la première premier chapitre. Et vraiment, avant de le lire, oui, je dis qu'il faut reconnaître qu'il y a certaines figures chrétiennes, certains hommes de Dieu, certaines femmes servantes qui servent à l'édification de tous et à la consolation de tous. Les grands engagements, les épreuves de la mission, les délivrances expérimentées par des hommes et des femmes de foi sont une source de consolation pour le simple fidèle dans son témoignage quotidien. Nous n'avons pas tous une vie exaltante de combat dans le témoignage et de mission très particulière, mais il y a, dès le commencement avec les apôtres et tout au long des siècles, des hommes et des femmes qui portent ce combat de façon plus particulière et qui sont de ce fait une source d'encouragement pour l'Église tout entière. C'est le cas donc dans cette seconde aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions même comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, de lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. En soutenant le ministère par la prière, à la fin du passage, nous participons à la victoire et nous apprenons aussi la victoire dans notre propre témoignage, notre propre vie de foi. De quoi désirons-nous être consolés? Quelles sont nos véritables épreuves? Ici, la véritable épreuve, c'est d'aller partager l'Évangile. Et d'aller partager l'Évangile là où il n'a pas encore été prêché, ou là où les conditions de réception et pour aller apporter le témoignage sont difficiles, sont stressantes, sont éprouvantes, sont risquées, parce que le but, c'est d'amener le message de la grâce de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore, en sachant que le monde lui-même et la puissance qui conduit, qui agit dans le monde, s'oppose à cette révélation de l'amour de Dieu en Christ. Et donc, les apôtres, les grands missionnaires, sont nécessairement placés dans des situations éprouvantes, des situations risquées. Et ils ont expérimenté toutes les épreuves, toutes les souffrances, toutes les détresses même du ministère, comme étant une communion avec Jésus-Christ. C'est en étant dans l'Esprit de Christ, en communion avec lui, qu'ils sont allés apporter l'Évangile. Et pour connaître les consolations de Christ, il faut être en communion avec lui dans ses souffrances. Le verset 5, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Les souffrances de Christ, partager les souffrances de Christ, c'est cela, en fait, la base même de la consolation, parce que l'Esprit de Christ en nous se réjouit de pouvoir apporter le message de la grâce, d'être au sein de ce monde l'élément qui va donner, communiquer ce que le monde ne peut pas recevoir autrement. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, l'apôtre nous demande de considérer en effet celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans Psaume 69, verset 21, il y a cette parole « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. » Ça, c'était la position de Christ au sein de ce monde. Et pourtant, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Les apôtres, donc, et quelques-uns après eux, ont été entraînés dans une proximité de Christ qui comprenait la communion de ses souffrances. C'est ce que Paul recherche, hein, il le dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, la puissance de la résurrection, mais la communion des souffrances de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 12, verset 11, par exemple, il y a plusieurs passages où l'apôtre peut témoigner des souffrances, en fait, de Christ qu'il partage. 4, verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons, alors, la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et Colossiens 1, 24, il peut aller jusqu'à dire « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Le but ultime de toutes ces souffrances consenties, c'est le salut des fidèles. De Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Pas de Corinthiens, pardon, de Timothée. Je prends à partir du verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Je supporte tout à cause des élus. Et non seulement les apôtres ont été consolés par des délivrances, mais c'était plus que cela. Ils étaient consolés au sein même de l'épreuve, dans la souffrance elle-même. Ils connaissaient ce qui est quelque chose voilà, d'unique. Ils connaissaient la joie d'être persécuté au nom du Seigneur, de souffrir pour le nom du Seigneur. Ça a commencé dans les Actes des Apôtres. Nous avons au chapitre 5 les apôtres qui ont été mis en prison, voilà, puis ensuite qui ont été battus. 5 verset 41. Voilà, alors il y a tout un épisode auparavant et certains veulent vraiment mettre les apôtres en prison, peut-être les exécuter, mais il y a quelqu'un qui plaide pour eux et donc ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Voilà le résultat de cette persécution et des coups infligés aux apôtres. Ça les a rendus joyeux. Pas de d'une joie qui serait une joie sadique, masochiste. Non, joyeux d'avoir été rendu trouvé digne de souffrir pour le nom de Jésus. Dans Romains, chapitre 5, verset 3, l'apôtre dit encore aussi, bien plus, donc nous demeurons fermes, nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire, dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Dans Philippiens, il dira aussi « Je sers de libation déjà pour le sacrifice. Eh bien, je m'en réjouis. » Voilà, il n'était pas dans une disposition d'esprit à « Il faut souffrir et je vais supporter jusqu'au bout ces souffrances. » Mais non, il non pas qu'il aimait à souffrir, mais il aimait à ce que la gloire de Dieu et la victoire de la foi triomphent de l'opposition du monde. Et qu'à travers ces souffrances, l'évangile puisse être propagé. Donc nous sommes aussi, nous, appelés à supporter les mêmes souffrances, comme il dit aux Corinthiens. Supporter les mêmes souffrances que lui et les autres apôtres ont endurées. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en entrant dans le même combat qu'ils ont remporté, dans lequel ils ont expérimenté le secours du Seigneur, eh bien, nous nous disposons nous-mêmes à être consolés. Toujours dans Philippiens, chapitre 1, versets 28 et 30. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Nous sommes vraiment appelés à être animés par le même esprit que celui qui animait les apôtres pour participer à la même gloire, avoir la même joie dans nos cœurs. On a pu l'expérimenter dans quelques situations lorsque nous étions en témoignage public. Je me souviens d'un épisode à la braderie de Lille où on était à témoigner, à chanter avec le groupe et où il y avait des jeunes gens qui étaient vraiment hostiles, remontés contre nous. À ce moment-là, qui m'ont craché dessus, voilà. Et sincèrement, c'est vrai que de subir des situations comme celle-là, c'est pas du tout décourageant. Ça nous fortifie, ça nous permet de savoir qu'on est vraiment dans le bon combat. Il y a de l'opposition, oui, elle est virulente, oui, mais ça veut dire quelque chose derrière. Et si nous sommes capables de bien réagir et de persévérer dans la bonne attitude face à ces personnes, eh bien, il y a une victoire qui est attendue et que le Seigneur va pouvoir manifester au temps voulu. Voilà, déjà, c'est une victoire sur nous-mêmes et puis c'est une victoire aussi pour celui qui reçoit ce témoignage. Oui, je donne quand même cet exemple parce qu'il ne s'agit pas de parler seulement en théorie, mais aussi dans la pratique, ce que nous avons pu concrètement vivre pour le Seigneur dans un engagement. Et c'est là que c'est important. Il y a ces grands exemples, ces grands témoignages d'hommes de foi, mais tous à notre mesure, nous pouvons quand même aller et à ce moment-là, rencontrer sur le terrain la difficulté, à rencontrer sur le terrain la pression, la souffrance, l'épreuve, la détresse parfois, mais c'est l'occasion que le Seigneur puisse nous amener par le Saint-Esprit de véritables consolations. Une vie par trop confortable ne permet pas d'expérimenter ce type de consolation. Une église trop bien installée ne peut pas connaître ce type de consolation. L'Église doit rester dans l'esprit missionnaire. Une Église missionnaire, une Église qui va au-devant des autres, connaîtra des épreuves, des tribulations, des oppositions, mais connaîtra aussi des consolations. C'est ce que je vous souhaite vraiment, d'être dans l'action de l'Esprit, dans le témoignage opérant, vivant. Et là, eh bien, vous allez expérimenter. Et puis, bon, vraiment ensemble, hein, pas seulement chacun essayer de faire son propre témoignage, mais vraiment de le faire ensemble, et de sorte que certaines situations qui pourraient quand même, si nous sommes seuls, nous décourager, nous permettent alors de nous fortifier mutuellement, de relever celui qui est en train de fléchir, de tomber, et voilà, de tenir ferme par la grâce de Dieu. Amen.